Bonjour à tous, troisième jour de notre périple à travers la Chine. Aujourd'hui, on part à la découverte du Far West chinois.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Il faut voir les films de Jia Zhangke pour prendre la mesure des fractures qui traversent la société chinoise. Le cinéaste s'est fait portraitiste d'une Chine contemporaine bouleversée par un développement économique brutal. Certes, la croissance a permis à une grande partie de la population de sortir de l'extrême pauvreté. La province littorale du Jiangsu, au nord de Shanghai, se félicitait encore tout récemment d'avoir éradiqué la misère. Mais les inégalités entre la côte et l'ouest de la Chine, entre les villes et les campagnes, n'ont cessé de se creuser. Vous écoutez France Culture et vous avez raison. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Pour parler de la lutte contre la pauvreté en Chine, nous accueillons aujourd'hui Thierry Sanjouan, sinologue et géographe, titulaire de la chaire d'Asie méridionale et orientale à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Guilhem Fabre en duplex d'Avignon, professeur émérite à l'Université Paul Valéry et co-responsable du séminaire BRICS à l'INALCO. À 14h50, ce sera l'heure du journal de l'écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet.
Li Guangtu n'avait jamais connu son père. Le jour de sa naissance, celui-ci avait péri dans des conditions peu ragoûtantes. C'est dans une fosse à merde que son père s'était noyé. Il était tombé dedans par mégarde alors qu'il tentait d'apercevoir le derrière d'une fille aux toilettes. En ce temps-là, les toilettes publiques n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui, ou même avec un périscope, on n'apercevrait pas les fesses de sa voisine. À l'époque, seule une mince cloison séparait le coin des hommes de celui des femmes, et la tranchée qui courait en dessous était commune aux deux sexes. Les bruits on ne peut plus explicites de défécation et de jets d'urine qui provenaient du côté des femmes vous enflammaient l'imagination. Alors, à l'endroit où aurait dû se trouver votre derrière, vous glissiez avidement la tête, et les deux mains arrimées à la planche, le corps plié en deux, les yeux irrités par la puanteur, sans prêter attention aux asticots qui grouillaient autour de vous, tel un champion de natation qui s'apprête à plonger, vous lanciez votre tête et votre corps le plus loin possible en avant, de façon à apercevoir la plus grande surface possible du postérieur.
Bonjour Thierry Sanjouan et Guilhem Fabre.
Bonjour.
Bonjour.
On vient d'entendre un extrait de Brothers, le roman de Yu Roy, lu par Philippe Baudouin. Roman qui retrace plus de 50 ans de l'histoire de la Chine, depuis la révolution culturelle jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que ce texte nous dit de cette Chine des années 60, Thierry Sanjouan, une Chine qui est encore essentiellement rurale?
Rurale, mais c'est aussi une Chine collective. On est dans des toilettes collectives. Et on est dans la misère, on est dans la saleté, on est dans la déprime et dans les frustrations, en fait, finalement. Et l'intérêt du livre de Brothers de Yu Roy, c'est qu'il montre, en fait, l'itinéraire de la Chine depuis cette Chine-là des années 60-70 qui sortait de la révolution culturelle et de ses évolutions à la fois matérielles, mais également collective et en termes de valeurs, en fait. Les valeurs de la Chine ne sont plus du tout les mêmes, elles ne sont plus les valeurs collectives que Yu Roy illustre par des toilettes publiques pendant une cinquantaine de pages par humour.
Des valeurs collectives dans cette Chine essentiellement rurale, Guilhem Fab, mais une Chine qui est régulièrement menacée par les famines et qui connaît des taux de pauvreté extrêmement importants.
Juste après le grand bond en avant de 58-61 et une très très grande famine qui était due à l'impréparation du grand bond, hein, qui a fait entre 20 et 40 millions de victimes selon les estimations.
Donc d'où la volonté de Deng Xiaoping de sortir une grande partie de la population de la pauvreté. Il formule pour la première fois le 6 décembre 1979 ce concept de société modérément prospère qui a été repris par Xi Jinping. Qu'est-ce que ça signifie, Guilhem Fabre?
Ça signifie que la Chine se fixe comme objectif d'arriver à subvenir, disons, aux besoins essentiels de sa population. c'est-à-dire une société modérément prospère, c'est celle d'une part éliminer la pauvreté et puis par ailleurs arriver à satisfaire les besoins essentiels.
Éliminer la pauvreté, l'objectif est posé par Deng Xiaoping, Thierry Sanjouan, et sera repris ensuite par Xi Jinping.
C'est avant tout un projet politique. Le Parti communiste chinois a emmené dans le mur la société chinoise avec le grand bras en avant, comme disait Guilhem, en 58-61, puis la révolution culturelle. Et ce que dit très explicitement Deng Xiaoping au début des années 80, c'est qu'il faut passer une sorte de contrat tacite avec la population chinoise. Il faut qu'ils vivent mieux, qu'ils mangent mieux, et nous, on gardera le pouvoir.
Et aujourd'hui, ça fait partie des objectifs prioritaires de Xi Jinping. Son bras droit, Wang Qishan, a affirmé dans un discours au forum de Davos qu'il n'y a aucun problème pour que la Chine entre dans l'ère d'une société modérément prospère en 2020 pour l'ensemble du pays. Parce que ce qu'il faut dire, Thierry Sanjouan, c'est que si une bonne partie de la population est sortie de la pauvreté au cours des 50 dernières années, il y a encore des territoires très pauvres en Chine, notamment le Yunnan, mais aussi les territoire à l'ouest de la Chine.
Mais là, c'est une décision politique, là encore, de Deng Xiaoping et du gouvernement chinois dans les années 1980. Ils ont décidé volontairement de développer le littoral et les villes du littoral, et ce ne serait que dans un deuxième temps qu'on diffuserait le développement à l'intérieur à l'intérieur du pays. Ce qui fait qu'on commence par des zones franches, des zones économiques spéciales, notamment dans les provinces du sud du littoral chinois.
Alors justement, c'est cette trajectoire qu'on va raconter tout au long de cette émission. Ce qu'il veut dire d'abord, Thierry Sanjouan, c'est que de façon théorique, il y a cette idée que la lutte contre la pauvreté passe par l'urbanisation et l'industrialisation. C'est ça le cœur du modèle de développement chinois.
Il y a plusieurs périodes dans les réformes. On peut identifier essentiellement trois ou quatre grandes périodes. Celle de 1978-1992, on développe la Chine pas du tout par les villes, au contraire, on les contourne, parce que ce sont les piliers du régime et c'est là qu'il y a les entreprises d'État et les grandes entreprises collectives. Et en fait, on mène une politique de décollectivisation des terres pour certaines campagnes, pour les campagnes, et on crée des zones économiques spéciales, on incite où on laisse faire une industrialisation rurale dans le delta de la rivière des Perles, au sud du Fujian ou dans la région de Shanghai. Mais en fait, ce développement, c'est de l'industrialisation légère, production de biens de consommation à vocation exportatrice, largement exportatrice à l'époque, et qui est en situation donc dans des régions littorales, mais ça ne touche pas les villes. Les villes, c'est à partir de 1990-92, la relance des réformes en 1992 par le même Deng Xiaoping.
Vous partagez cette idée de trois grandes périodes, Guilhem Fabre, dans le développement chinois?
Oui, j'ajouterais quand même, je poursuivrai dans le cadre de ce que dit Thierry, que à partir des années 2000 et l'entrée de la Chine à l'OMC, il y a une modification, c'est-à-dire une très forte montée en puissance. Mais dans l'ensemble, ce qu'on observe pendant 30 ou 40 ans, c'est que la Chine a battu les records mondiaux de la croissance. Donc qui dit haute croissance dit forte mobilité sociale. Sous le régime antérieur à Deng Xiaoping, il n'y avait pas de... La main-d'œuvre était fixée entre les campagnes et les villes, et ce qu'a introduit Deng Xiaoping, c'est la possibilité de migration. Et c'est ça qui a modifié complètement l'équation. C'est parce que, d'une part, il y a eu un dégagement de la forte... du fait de la décollectivisation des campagnes, un dégagement de main-d'œuvre, avec la hausse de la productivité, et puis l'ouverture de la Chine a attiré cette main-d'œuvre d'abord sur les zones côtières.
C'est ça, ce sont les zones franches d'abord qui apparaissent en 1979, ces quatre zones économiques spéciales, Pudong, Xiamen, Shantou et Shenzhen, et ensuite les zones franches se multiplient et attirent de plus en plus de migrants, Thierry Sanjouan.
Oui, mais il n'y a pas Pudong en 79. Pudong, ça sera...
Ah, c'est une erreur de ma part.
Ça sera 1990 et ça sera la relance de Shanghai. Au contraire, dans les années 1980, c'est de l'industrialisation rurale et les zones économiques spéciales qui sont... dans le Guangdong et dans le Fujian, les deux provinces du sud, en fait, parce que il y a aussi un contexte géopolitique qui fait que les gens pro-cantonais favorables au Guangdong sont au pouvoir jusqu'en 1989. Et dans les années 90, c'est deux anciens maires de Shanghai qui sont présidents de la République et ministre des Affaires économiques et puis après Premier ministre.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir des années 90, oui, l'idée est de favoriser l'essor des grandes villes qui permettront à leur tour de développer les villes petites et moyennes qui les entourent, Thierry Sanjouan.
Alors dans un premier temps, c'est de développer, de moderniser les villes pour qu'elles soient des acteurs, des vitrines, des leaders en fait du développement, que l'espace chinois se polarise en fonction des villes en fait. Et donc on abandonne, disons que le modèle du delta de la rivière des Perles, l'industrialisation rurale est abandonné au profit d'un nouveau modèle qui est celui de Shanghai en tant que tel, et qui va ne pas être sur des logiques d'industrialisation rurale, mais sur des logiques de zones franches industrielles, de zones de développement économique et technique, en périphérie, dans le périurbain de la ville de Shanghai.
On relocalise une partie des activités dans des villes petites et moyennes, l'essor de certaines villes.
On déconcentre une partie des populations et les activités industrielles des villes-centres vers des villes-relais au sein des municipalités.
Oui. Et vous avez cité l'exemple de Shanghai. C'est un exemple intéressant puisque l'essor de Shanghai a permis le développement de villes alentour, Kunshan, Ningbo, Shaoxing, toute cette zone urbaine, périurbaine qui s'est développée.
Alors, Shaoxing, Ningbo étaient déjà des villes qui existaient, qui étaient déjà industrialisées, mais effectivement, il y a une satellisation de ces villes par Shanghai qui devient le pôle de commandement en termes tertiaires, en termes de commandement économique et de siège sociaux.
Alors, je voudrais vous faire entendre un extrait du film de Jia Zhangke, A Touch of Sin, qui est sorti dans les salles en 2013.
Et Tintin, elle rentre pas? Pourquoi elle reste à Tongguan?
Elle travaille à Tsumzan. Elle rentrera pas. Elle est séropositive.
Elle a le sida? Elle bossait pas à l'usine des Taïwanais?
Ah ça, c'est impossible de tenir dans ce trois. Lily a un salon de coiffure à Tsumzan. Tintin a voulu y aller. Elle a trouvé le moyen de choper le sida avec ses prestations à part dans les hôtels.
Hé hey, blondin, l'autre fois tu te l'es tapé. Je serai toi, moi je ferai un test. C'est ça, n'importe quoi. Si, t'as intérêt. Je prie pour que t'aies rien.
Et ta femme, quand elle était à Tianjin, pendant que toi t'étais ici, tu devrais peut-être la faire dépister, elle aussi.
Ceux qui partent et ceux qui restent, voilà un sujet de conversation, éventuellement de conflit, qui en tout cas est très très présent dans les discussions en Chine, Thierry Saint-Jean.
Oui, pour revenir sur ce film, l'intérêt de ce film, c'est qu'il montre des situations sociales très différentes de migrants, de gens qui sont pauvres, de gens qui sont destitués de leur ancienne entreprise publique. Et on voit parfaitement la violence qui est faite dans ces situations, différentes violences d'ailleurs de nature différente, aux quatre coins de la Chine, et qui montre bien le degré finalement de frustration, cette période de transition et de changement de modèle, tout le monde n'y gagne pas, en fait, finalement.
Est-ce que le film montre, c'est aussi la violence qui accompagne le changement économique?
Et ça s'accompagne d'une incroyable violence, ou contre les nouveaux maîtres, les anciens maîtres, ou de la violence contre soi-même.
Pour continuer un petit peu ce parcours, cette trajectoire du développement économique de la Chine, il faut peut-être dire, Thierry Saint-Jean, que l'industrie va se déplacer progressivement vers le centre, en partant de la côte est, et les villes laboratoires de cette côte vont se tourner plus vers les services, notamment financiers.
Non, elles restent industrialisées, mais effectivement, leur PIB, pour Shanghai par exemple, est essentiellement tertiaire aujourd'hui. Il y a une diffusion du développement, des délocalisations industrielles, du développement industriel à l'intérieur de la Chine, grâce aux nouveaux axes qui sont mis en place, grâce aux politiques d'aménagement du territoire, qui commencent à partir de 1990, nouvelle zone de Pudong, 1992, décision de créer le barrage des Trois Gorges, Toute la période des années 90, c'est Shanghai le modèle, et à la fois c'est, comme on disait à l'époque, la tête de dragon, et c'est l'ensemble du fleuve Yangtze qui est une grande transversale est-ouest de la Chine et qui est ponctuée de villes importantes, Wuhan, dont on parle beaucoup pour d'autres raisons actuellement.
Parce que c'est l'épicentre de l'épidémie de coronavirus.
Chongqing, qui est une ville qui est en amont du barrage des Trois Gorges, et puis plus loin, Chengdu, qui sont un chapelet de villes tout à fait essentielles pour la diffusion du développement. Et puis après, plus tard, dans les années 2000 et plutôt 2010, on va avoir un axe qui est réactivé largement, qui est celui de Pékin et Xi'an, Lanzhou, qui est là un axe terrestre et qui est au début de la route terrestre de la soie.
Ce qu'on comprend bien, c'est que l'intégration du centre, mais aussi de l'ouest du territoire, passe par le développement des transports ferroviaires en grande partie. Il y a des milliers de kilomètres de voies qui vont être construits pour relier ces territoires de l'ouest et du centre aux grandes villes de l'est, Guilhem Fabre.
Pas simplement ferroviaire. À partir de la crise asiatique en 97, le gouvernement a pratiqué une politique de relance en couvrant le pays d'autoroutes du nord au sud. Donc ça a fluidifié les échanges. Il y a un autre paramètre qui est important à partir des années 90, disons essentiellement 92-94, c'est tout simplement la venue des entreprises multinationales et la création de la Chine comme usine du monde. C'est-à-dire que toutes les multinationales voient la capacité de travail de la main-d'œuvre chinoise et en même temps la fiabilité de ce marché, la croissance très forte du marché intérieur. Et elle commence à marcher sur les deux jambes, en produisant à la fois pour le marché chinois et en même temps pour les marchés européens et américains qui sont à l'époque les deux grands marchés de la planète. Hein, donc c'est un processus qui va s'accélérer à partir des années 2000, hein, et à ce moment-là, la Chine devient vraiment le paradis des investisseurs, puisque la main-d'œuvre est peu chère, le terrain, toutes les municipalités se mettent en concurrence pour attirer les investisseurs étrangers, et même dans certaines provinces, le terrain est cédé quasiment gratuitement, l'énergie est aussi à des prix administrés, donc on a tous les facteurs de production qui sont extrêmement bas par rapport à l'ensemble du monde, et pas de grève contrairement en Inde.
Et est-ce que ça ne concerne pas essentiellement l'Est et éventuellement un petit peu le centre, mais pas du tout l'Ouest du pays, Thierry Sanjoin ?
Ah, c'est tout le problème. Encore en 2018, le littoral concentre 84% des exportations, 83% des investissements des entreprises étrangères et fait 60% du PIB. Donc en fait, il fait 60% du PIB, le littoral, et il confisque quasiment à lui l'essentiel quand même de cette prétendue ouverture d'une certaine manière. Même si je calcule ces chiffres chaque année depuis 30 ans, ça s'améliore beaucoup pour la Chine intérieure, pas l'Ouest, la Chine intérieure.
Vous avez notamment travaillé autour de la ville de Xi'an, je le prononce sûrement Xi'an, très mal,
oui.
Thierry Sanjoin, je le prononce à la française tel que c'est écrit, c'est le choix que je fais tout au long de cette émission. C'est une ville du Shaanxi que vous avez étudiée de près, puisque justement elle s'est énormément développée et les villes qui l'entourent se sont développées aussi.
Alors elle a beaucoup d'atouts quand même, parce que déjà c'est une ancienne capitale, elle a un attrait touristique qui est très fort. Elle est sur un des axes ferroviaires majeurs de la Chine. Elle est un pôle central de développement pour une Chine de l'intérieur, en fait, finalement, qui n'est pas la Chine du Yangtze, qui est la Chine du nord central, d'une certaine manière. Alors, elle a développé des parcs industriels dans les années 90 et 2000 avec de l'aéronautique, avec des industries qui de plus en plus sont de haute technologie. Il y a une volonté là pour le coup, pour le gouvernement central d'une certaine manière, de développer la Chine par Xi'an.
Et ça, il y a toute une zone économique, la zone de Guangzhou-Tianshui, qui a été créée autour de Xi'an. Ça, c'est important de souligner cet aspect, Thierry Sanjoin, cette création des clusters.
Alors, il y a plus. Alors, il y a la ville héritée, il y a les zones industrielles, et puis il y a ensuite l'ensemble d'une région, effectivement, le Guangdong Tianshui, une grande zone économique qui se met en place. Et en 2009, puis 2011, puis surtout avec le plan d'urbanisation nationale de 2014, les Chinois ont décidé de créer 21 clusters, qui est une façon de diffuser à des échelles micro le développement. Donc ces clusters sont hiérarchisés. On part d'une grande ville, ici l'exemple de Xi'an, et on relie des villes relais, des villes moyennes relais ou des petites villes par des autoroutes, des routes ou des voies ferrées, ce qui permet de déconcentrer une partie de la population de la ville centrale et de déconcentrer les activités industrielles et de développer des petites villes alentours qui sont des satellites, mais qui sont en fait ancrés dans le développement par la grande ville. Donc des clusters qui sont hiérarchisés dans l'armature urbaine.
Et ce cluster autour de la ville de Xi'an, c'est le cluster le plus important et aussi le plus proche des régions de l'Ouest, Thierry Sanjouin. Donc il y a aussi cette idée de pousser au développement de ces régions de l'Ouest.
C'est vrai, mais l'Ouest, c'est vraiment le plus loin quand même. Le Xinjiang ou le Tibet, c'est encore un autre monde. Il faut passer tout le corridor du Gansu.
Guilhem Fabre, sur la création de ces clusters à partir de la fin des années 2000.
Oui, alors je pense que d'une part, aucun pays dans le monde, aucun pays continent n'a connu un développement équilibré sur l'ensemble de son territoire. C'est une fiction. Alors, bien entendu, il y a toujours des zones qui sont plus développées que d'autres. On le voit à l'échelle de l'Europe, à l'échelle des États-Unis. Donc la Chine, c'est la même chose aussi. Mais je pense qu'il y a eu effectivement la création de clusters. Par exemple, vous prenez l'exemple du cloud. Hein. Le cloud, tout ce qui est l'industrie du cloud, on a décidé de le mettre dans la province du Guizhou, à Guiyang. Autour de Guiyang. Bon, la province du Guizhou, en termes de PIB per capita, qui est au sud du Yunnan ou à l'ouest du Yunnan, à l'est du Yunnan, bon, c'est une des provinces les plus pauvres de Chine.
Donc une province du sud.
Une province du sud-ouest, oui. Mmh. Ouais. Donc là aussi, il y a une politique d'aménagement du territoire qui est intéressante, qui vise à rééquilibrer et à donner des atouts, disons, à ces provinces de l'intérieur.
D'ailleurs, Xi Jinping revient tout juste du Yunnan et il a dit que justement le développement des États limitrophes permettrait aussi le développement de régions comme le Yunnan, Thierry Sanjouin, qui est donc au sud de la Chine.
Alors, deux choses. La première, comme le dit très bien Guilhem, depuis une vingtaine d'années, le gouvernement central essaye de donner des spécialités économiques aux grandes villes du centre de la Chine. Par exemple, ça peut être les médias, la presse, au niveau de Changsha, et donc le cloud à Guiyang. Alors, après, pour les villes, pour les régions, les provinces frontalières, elles étaient initialement, dans les années 50, des marges que l'on s'est appropriées, que maintenant on en a fait des périphéries désenclavées par notamment les autoroutes, mais aussi les lignes à grande vitesse qui ont été démultipliées dans la deuxième moitié des années 2000. Et puis, on va à Guiyang, par exemple, on arrive à Canton, en 3-4 heures, on est à Guiyang, en 20 minutes, on est dans son village. Hein. Donc, ça change complètement le désenclavement qu'il y avait il y a encore 10 ans. Et puis, par ailleurs, c'est que ce soit le nord-est, que ce soit une partie du Xinjiang ou que ce soit le sud-ouest, ces régions frontalières sont utilisées comme des marches pour rayonner et pour faire du lien avec les pays avoisinants et pour s'intégrer en fait. Et là, on retrouve la notion de route terrestre de la soie, même démultipliée d'une certaine manière.
C'est aussi une stratégie de rayonnement.
Et la route terrestre de la soie, le premier prototype, sans avoir le nom de route terrestre de la soie, c'était le raccord en route et en voie ferrée avec la région du Grand Mékong dans la péninsule indochinoise, depuis le Yunnan.
Guilhem Fabre, sur cette volonté de rayonner dans ces régions qui étaient des marges et au-delà.
Absolument, c'est une politique qui a commencé en fait dès 1992, hein, qui a été lancée, le développement de ces régions frontières par les échanges extérieurs et de toutes les régions enclavées. J'ajouterai une autre chose aussi en termes de sortie de la pauvreté. Il y a plus de 280 millions de migrants en Chine. Ces migrants, la moitié d'entre eux sont des migrants interprovinciaux, grosso modo. C'est-à-dire que j'avais fait par exemple des enquêtes en 1997 pour le monde diplomatique dans la région les plus pauvres du Guizhou, dans les zones les plus pauvres du Guizhou, qui étaient parmi les plus pauvres de Chine. Et à ma grande surprise, les villages étaient déserts. Il y avait juste les personnes âgées, les femmes et les enfants. Tous les hommes étaient partis travailler donc dans les provinces du Guangdong ou ailleurs, et ramener de l'argent. Donc ce qui se passe à l'intérieur de Chine, même dans les zones les plus pauvres, avec ces migrations, c'est ce qui se passe entre l'Afrique et l'Europe. Si vous voulez, vous avez des flux très très importants d'hommes, et puis des flux d'argent qui reviennent aussi. Mmh. Hein, et les seules personnes qui restaient sur place, c'était les charpentiers pour reconstruire les maisons.
On va parler effectivement de ces travailleurs migrants qui sont près de enfin, qui sont un chiffre extrêmement important, comme vous l'avez dit, et on va voir que chaque année, il y a tout de même environ 10 millions de Chinois qui sortent officiellement de la pauvreté. On en parle dans un instant.
何必要说苦，何必要说苦，快向前走，照进你的深路，照进深路，要跨稳着步，才到岸了途，你要清醒等，振作精神，要一步又一步振作你的精神，要快快甩开踏步，难关渡，要求幸福，必须爱情辛苦。 你要做大丈夫，要做大丈夫，快抬起头，还要高声欢呼。迈开大步就没拦阻，要迈开大步才到岸了途。你要清醒等，振作精神，要一步又一步振作你的精神，要快快迈开大步难关渡，要求幸福，必须爱情辛苦。
16 Tones de Changlu sur France Culture. Dont entendez-vous l'écho? Thierry Sanjouan et Guilhem Fabre sont toujours avec nous pour parler de la lutte contre les inégalités en Chine.
Et ta femme, d'où elle est?
De Handan même.
Ça va, Handan?
Le charbon ne rapporte plus rien. La mine va sûrement fermer. Ah.
C'est le problème qu'on a eu ici. Il n'y a plus de petites mines. Je suis devenu soudeur et j'ai retrouvé un travail.
Soudeur? Métier qualifié.
Si t'as besoin d'aide, n'hésite pas à me demander, tu sais que je suis là.
Bien sûr.
T'es revenu juste à temps. Je dois aller chercher mon visa à Pékin dans quelques jours.
Ah, ton visa?
Ouais, pour aller à Almaty. La China Petroleum construit des pipelines là-bas. Ils ont besoin de soudeurs.
C'est où, Almaty?
Au Kazakhstan, derrière la chaîne des Tian Shan. Je vais tenter ma chance. Je dois verser une caution de 30 000 yuan. J'ai été obligé d'emprunter à mes deux frères et à quelques amis aussi. Je pense pouvoir les rembourser d'ici un an.
Tu y arriveras.
Au-delà des montagnes, autre film de Jia Zhangke sorti en 2015. Qu'est-ce que cet extrait nous dit de la transformation de l'économie chinoise qui s'éloigne peu à peu du charbon, Thierry Sanjouan?
Des gens qui sont dans le petit boulot, qui ont perdu leur emploi ou qui ont été de trop dans les champs, et qui essayent désespérément de trouver un petit boulot, qui sont dans des réseaux de solidarité, qui ne sont pas toujours en famille, en fait.
Et qui s'endettent pour trouver un emploi, c'est ce qu'il nous dit ici.
Qui s'endettent, qui font des projets. Les réseaux sont très structurés, et on le voit dans les films de Jiajiangke, par aussi le téléphone portable, mine de rien, c'est par cela que viennent les opportunités d'emploi, en fait, finalement. Et je pense que ce que nous dit aussi l'extrait, c'est il faut peut-être chasser de notre idée l'idée que les migrants, ils viennent de l'intérieur et ils vont sur la côte. Aujourd'hui, ils vont aussi dans la capitale provinciale à l'intérieur de la Chine. Vous pouvez avoir le long d'une ligne de grande vitesse, Canton, Guoyang, vous pouvez avoir des stations d'arrêt du train où l'on déménage les villages des collines pour être près de la station et ça suscite une forme de développement. Donc, et puis, bien évidemment, c'est le migrant qui va aussi à l'autre bout du monde, qui va sur un chantier de construction en Algérie, qui va dans un chantier d'extraction minière au Tchad et qui part du Sichuan directement et plus du tout par la côte, directement à l'autre bout du monde par des filières en fait en lien avec des entreprises chinoises à l'étranger.
Ce qu'il faut souligner, c'est que cette mobilité des travailleurs, Guillaume Fabre, elle a été historiquement encadrée par le pouvoir. Il y avait cette idée que l'État voulait maîtriser les migrations.
Oui, avant les années 79, le début des réformes, la Chine avait réalisé une espèce de record mondial. Le taux d'industrialisation le plus élevé, c'est-à-dire l'industrie représentait à peu près 40% du revenu national, avec un taux d'agglomération ou un taux d'urbanisation le plus bas. Et à l'époque, c'était de moins de 18% de la population. Tout simplement parce que l'industrie était centrée sur le secteur lourd, à forte intensité capitalistique, et elle maintenait donc avec peu de gens, peu de travailleurs qui bénéficiaient de tous les avantages du secteur d'État.
Mais ensuite, l'industrie a eu besoin d'immigration massive.
Alors là, ensuite, on a développé, on a remis l'économie sur la tête, parce qu'on marchait sur la tête, quoi. C'était les efforts militaires, etc. On a inversé l'ordre des priorités, ça a été agriculture, industrie légère et industrie lourde. Et en développant l'industrie légère et de plus en plus en s'ouvrant à l'international, on a eu besoin beaucoup plus de main-d'œuvre. C'était des activités à forte intensité de main-d'œuvre. Et là-dessus, justement, les investisseurs des autres pays d'Asie sont venus massivement délocaliser leur production à forte intensité de main-d'œuvre en Chine.
Mais pendant longtemps, c'était extrêmement compliqué de se déplacer, Thierry Sanjoin. Et aujourd'hui encore, il existe toujours ce livret de résidence domestique, le HUKO, qui a été mis en place en 1959. Où est-ce qu'on en est de la possibilité légale de se déplacer en Chine ?
Vous avez lâché le mot clé. Le HUKO, effectivement, le livret d'enregistrement mis en place pendant le Grand Bond avant 1958 et qui catégorisait qui attachait les gens au lieu où ils naissaient, enfin les familles initialement, et qui
transmettait par la mer
et qui distinguait les urbains des ruraux, dans la mesure où finalement même du temps de l'idéologie maoïste à tout craint, c'était dans les villes qu'on avait un boulot assuré, un logement, une sécurité sociale, une retraite, les aménités de la ville que n'avaient pas véritablement les ruraux. Donc il y a une tentation, et puis il y a... Alors ça s'est un peu amélioré entre 1978 et 1985, et puis ça s'est redégradé. Il y a un écart en gros de le revenu moyen rural et le tiers du revenu moyen urbain. Donc dès les années 1980, il va y avoir affluence de population rurale vers les villes parce qu'elles proposent des boulots, parce qu'elles proposent de meilleurs salaires, parce qu'elles permettent de vivre d'une certaine manière. Mais cela, alors, est très, très largement illégales et ou en partie intégrées s'ils peuvent subvenir au logement et à la nourriture dans les années 1980, mais les masses vont devenir de plus en plus importantes.
Donc, à tel point que une partie de la population chinoise est considérée aujourd'hui comme flottante, c'est-à-dire qu'elle vit plus de 6 mois ailleurs qu'à l'adresse qui figure dans le livret domestique, ces fameux 300 millions de personnes dont parlait Guillaume.
C'est ça. Et alors là se pose la question du droit au service de la ville. La retraite, la sécurité santé et l'éducation des enfants. Et là, les choses sont très différentes. Pour l'éducation, par exemple, 30% des enfants de migrants sont scolarisés par la ville parce que les parents peuvent dire, attester qu'ils vivent et qu'ils travaillent dans la ville et qu'ils payent des cotisations sociales à la ville et que leur employeur également. Et seulement 10% des enfants de migrants, eux, sont dans des écoles pour migrants, payées par des migrants, hors du système public.
C'est ce qu'a mis en lumière l'épidémie de coronavirus, Guilhem Fabre, c'est cet inégal accès aux services de soins selon qu'on est migrant ou citadin possédant le statut de citadin.
Alors, ça, disons, oui. D'une part, les migrants n'ont pas du tout les mêmes droits, mais à l'intérieur même de la société urbaine, et ça c'est la cause d'une insatisfaction très grande, les cadres du parti ont un accès prioritaire aux soins de santé. Et ça, en termes d'hospitalisation, ça engendre une très très forte inégalité, et là qui est une inégalité de statut. Hein, si vous voulez, d'après des enquêtes de l'université de Pékin qui ont été faites en 2014, par exemple, les 1% de familles les plus riches concentrent plus du tiers de la richesse nationale. Et les 25% des familles les moins riches ne concentrent que 1%. De la richesse, en termes d'actifs, si vous voulez. Ça vous montre un peu les très très fortes inégalités. Alors, bon, bien entendu, elles sont dues à des secteurs différents, des secteurs qui sont profitables, d'autres qui le sont moins. Secteurs profitables, ça sera plutôt les services, l'industrie, etc. Les secteurs moins, c'est l'agriculture. Mais il y a aussi d'autres conditions, c'est-à-dire les gens qui sont dans le système, proches du parti, du grand business, etc. Et puis des gens qui sont hors de ce système.
Je voudrais qu'on passe la dernière partie de cette émission dans les campagnes chinoises et qu'on essaye de voir si les territoires ruraux ont bénéficié du développement des mégalopoles et des villes petites et moyennes. Pour le savoir, il faut se plonger dans les romans de Mo Yan et en particulier dans La Joie. Yong Le, fils de paysan du nord-est de la Chine, rêve dans ce roman de rejoindre l'université pour fuir la pauvreté et cette campagne qu'il déteste.
Tu t'alarmas en apercevant tes dents grises et gâtées. Tu haïssais l'eau fluorée de la campagne qui les avait abîmées. Tu te souviens d'avoir vu l'année dernière, en allant à la foire, un jeune homme volubile qui vendait de la poudre à blanchir les dents, en criant à en perdre haleine. « Ohé, villageois, j'ai de la poudre à blanchir les dents. Cette poudre a la composition très élaborée, a été fabriquée selon de nouvelles techniques de Chine et de l'étranger. Les dents grises ou jaunes vous en les disent. » Empêche les jeunes gens de se trouver une épouse, les jeunes filles de se trouver un mari. Essayez donc la poudre à blanchir les dents. Le garçon avait en effet de belles dents bien alignées, d'un blanc immaculé. Il avait fait fortune. Enthousiasmé par ses propos, tu lui avais remis 5 centimes aussi douloureusement que si tu t'étais tranché le poignet pour lui acheter 2 sachets de poudre. Tu t'étais frotté les dents avec cette poudre à t'en faire saigner les gencives. Un goût de poisson et de crevettes plein la bouche. Mais tes dents grises étaient restées irrémédiablement grises.
Irrémédiablement grises, un texte lu par Antoine Beauchamp. Dans ce roman, Yong, le héros et l'alter ego de Mo Yan lui-même, qui est né dans une famille de paysans pauvres, avant de se voir attribuer le prix Nobel de littérature en 2012. Alors le taux de pauvreté en Chine est passé de 10% en 2012 à 3% en 2017, mais les poches de pauvreté qui subsistent sont dans la campagne, Thierry Sandjoin.
Oui, alors les choses sont compliquées. Le 3% de pauvres, c'est calculé avec un revenu inférieur ou égal à $1 par jour. On parle plutôt de 82 millions de ruraux qui sont sous le seuil de pauvreté dans la vraie vie. Il y a des campagnes très très pauvres. Alors, l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est un peu la campagne, je dirais un peu de toujours, c'est celle de la Chine des républicaines, c'est de la Chine de Mao, c'est celle qui a été tenue à l'écart des pôles de développement depuis le 19e siècle.
Ce sont probablement les souvenirs de jeunesse de Mo Yan qui est né en 1955.
Voilà, je pense qu'il faut rappeler son âge. Je crois surtout qu'il n'y a pas une seule campagne chinoise. Il y a une très grande diversité de situations chinoises. Les campagnes, elles ont été très industrieuses dans les provinces du sud avec l'industrialisation rurale. Les campagnes, elles ont été très florissantes avec la décollectivisation des terres en périphérie des très grandes villes comme à Shanghai dans les années 1980. Vous avez le nord du Jiangsu qui est resté très très pauvre et qu'on désenclave progressivement. Et puis vous pouvez avoir à l'intérieur de la Chine, près de Zhengzhou dans le Henan, trois villages qui se sont spécialisés dans les produits destinés à l'apiculture et qui produisent à l'échelle du monde aujourd'hui via Internet. Vous avez aussi le développement des gîtes ruraux et du tourisme rural. Donc, vous avez des poches de réussite aussi dans les campagnes. Mmh. C'est une situation très variée.
Une grande diversité, mais peut-être qu'il y a cette idée pour le pouvoir de sortir les habitants de la pauvreté par l'urbanisation, qu'ils le veuillent ou non. Il y a des municipalités qui obligent des populations rurales à émigrer vers des villes en développement. Guilhem Fabre, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ?
Obligation, non, c'est dans le cas de grands travaux d'infrastructure comme le barrage des Trois Gorges que ça s'est passé massivement. Mais de fait, quand la pauvreté est trop importante, les gens ont tendance à migrer à chercher des opportunités d'emploi ailleurs.
Il n'y a pas de pression de la part des collectivités locales qui auraient envie, par exemple, de récupérer les terres pour les mettre en hypothèque.
Alors, non, ça c'est une autre question. La moitié de l'urbanisation chinoise s'est fait en périphérie des villes, par exemple. Là, on a capté une grande partie des actifs fonciers. On a indemnisé de façon très très insuffisante les paysans. Dans les années 2000, ça a été la cause de beaucoup d'incidents. Et petit à petit, si vous voulez, le principe des réformes, ça a été la transformation du pouvoir de décision de la bureaucratie en pouvoir d'appropriation et de valorisation des actifs publics. Et dans ces actifs publics, il y avait de l'industrie, mais il y avait aussi du foncier, puisque le foncier est propriété soit de l'État dans les villes, soit des collectivités dans les campagnes. Donc ça a été l'objet d'une très très forte spéculation, les autorités locales devenant complices un peu des promoteurs pendant longtemps.
Mais aujourd'hui, Thierry Saint-Jean, on peut parler d'une volonté d'urbanisation à marche forcée en Chine pour lutter contre la pauvreté ?
Il y a surtout la volonté de raccrocher les campagnes à la ville et au développement. D'où le rôle des petites villes dont on parlait tout à l'heure en périphérie de Xi'an, en fait, qui sont là comme des lieux de déconcentration des populations et des activités pour les grandes villes, mais qui, en même temps, doivent être le lieu de réceptacle, en fait, des populations qui sont en trop dans les campagnes environnantes pour leur donner du boulot et pour leur donner de logement.
Ce modèle de développement chinois dont on parle depuis le début de cette émission trouve peut-être ses limites dans les provinces de l'ouest de la Chine et notamment évidemment dans le Xinjiang, peut-être parce que le développement cache une volonté de contrôle et d'assimilation des populations musulmanes de la province, Thierry Saint-Jean.
Alors le Xinjiang, c'est un problème de géopolitique interne pour la Chine. C'est une appropriation d'une région une partie de l'Asie centrale qu'ils ont colonisée à partir du XVIIIe siècle. Ils se l'ont appropriée sous l'Empire. À partir de 1949, l'armée de libération s'est implantée et a développé des fermes d'État. Il y a eu beaucoup de transferts de population du littoral de Shanghai, par exemple, vers des villes qui sont des villes clés comme
Urumqi.
Turfan, Urumqi, Karamay, tout un axe qui est comme par hasard l'axe ferroviaire qui mène au Kazakhstan. Et puis il y a des enjeux aussi de prédation économique en termes de ressources minières, de gaz et de pétrole pour les économies du littoral. Et dans un deuxième temps, il y a une géopolitique externe qui est le lien avec le Kazakhstan, pétrole et gaz, le lien avec l'Asie centrale et le lien avec l'Europe. Et par là même, il y a une volonté de geler, de s'approprier absolument le territoire, notamment le Xinjiang dans sa partie nord. En fait, la plaine de Dzungari, la partie sud, ayant moins d'enjeux puisqu'il y a le désert du Taklamakan.
Et c'est aujourd'hui l'une des provinces les plus pauvres de la Chine. Or, le gouvernement chinois n'hésite pas à présenter le Xinjiang comme un territoire d'opportunités économiques. C'est ce que raconte le cinéaste Jia Zhangke dans son film Les Éternels.
Vous allez où ?
Si c'est pas indiscret.
Oh, à Wuhan. Wuhan, c'est une très jolie ville. Et vous ? Je change à Wuhan, je vais à la frontière. Urumqi et ensuite Karamay.
Oh, au Xinjiang ?
Oui, ça fait loin. Il y a des avions pour aller là-bas. Je sais, je suis un grand nostalgique. En avion, on voit rien de tous ces paysages de notre belle patrie. Je trouve dommage de rater ça. Vous voulez bosser ? Accompagnez-moi au Xinjiang. Oui, c'est grand et il y a peu de gens. L'État va investir des milliards dans la région du Xinjiang pour développer le tourisme. C'est l'occasion ou jamais d'y aller. Ça sera comme Shenzhen à l'époque où ça a été créé. Je bosse sur un projet touristique actuellement. Je mets ça en place. Justement, on recrute. Vous devriez tenter votre chance.
Mais quel genre de projet ?
Circuit d'exploration.
On entendait un personnage qui est croisé par l'héroïne du film dans le train par hasard. Et ce personnage se fait en quelque sorte le porte-parole de la propagande gouvernementale sur le Xinjiang, avec l'idée que Pékin cherche à faire venir les Han, l'ethnie dominante dans la province.
Oui, oui, ça c'est incontestable. Pour s'approprier les ressources. Il y a aussi la base d'envoi des fusées satellites. Il y a aussi des centrales, des centres d'expérience nucléaire qui sont au Xinjiang. Il y a des enjeux véritablement très forts. Et d'une certaine manière, pour prendre un peu de recul, la Chine contemporaine, elle se construit sur ce qu'elle appelle, elle, ce qu'elle considère comme un traumatisme, qui est celui des agressions et des traités inégaux au XIXe siècle, et où la Chine a été plus ou moins dépecée en zone, en concessions étrangères ou autres, où ils ont perdu le contrôle de leur territoire. Et par là même, le Tibet et le Xinjiang, c'est des questions verrouillées. Personne ne conteste les frontières dans les faits aujourd'hui. Et ces territoires, les perdre à nouveau, ou la possibilité de les perdre, c'est revivre un cauchemar contre lequel la Chine contemporaine s'est construite. Mmh. Donc c'est un verrou supplémentaire donné par le pouvoir communiste.
Et en même temps, est-ce que le pouvoir réussit vraiment à attirer les Han ? Il y a 1 million de personnes qui auraient quitté la ville de Urumqi, donc la capitale de la province du Xinjiang, entre 2018 et 2019. Et parmi eux, une partie de Han, en l'occurrence. Alors, c'est à cause de la situation économique, à cause de la répression, Guillaume Fabre, que ces gens sont partis. Il faut rappeler que le New York Times a révélé en novembre 2019 l'existence de camps de rééducation ouïghours.
Oui, alors ces camps, officiellement, c'est des camps de déradicalisation, mais en fait, il s'agit d'un quadrillage absolument insupportable de la population. Et on peut parler de tensions extrêmement, extrêmement fortes entre les deux communautés. Une des spécialistes de cette région-là, qui était une collègue qui allait très souvent là-bas, disait que ça lui faisait penser à sa jeunesse en Algérie. Mmh. Pour vous donner une idée des tensions qui existent.
Tensions qui expliquent peut-être les départs et la difficulté, évidemment, Thierry Saint-Jouan, de cette province à se développer. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, mais je pense que les Chinois ne veulent pas la développer en tant que telle. Ils veulent surtout la posséder complètement et lutter contre les tentations de certains Ouïghours en termes de séparatisme, puisque initialement, c'était le lien avec les talibans en Afghanistan qui a accéléré le problème.
On l'a dit, la Chine connaît un ralentissement économique depuis une dizaine d'années. La croissance tend à ralentir. Est-ce que les inégalités sociales et territoriales dont on a parlé risquent de se creuser davantage à l'heure de ce ralentissement, Thierry Sanjouan?
C'est très possible. De toute façon, il y a ce qui se passe actuellement, le coronavirus, me semble que la Chine va avoir dans ses structures et dans ses économies et dans ses liens avec le monde des bouleversements quand même assez importants cette année. Donc les choses sont difficiles à prévoir.
C'est un phénomène étonnant tout de même de voir que les autorités incitent aujourd'hui les migrants de l'intérieur à rentrer dans leur province d'origine afin de dynamiser les campagnes. C'est une nouvelle tendance qui intervient, Guilhem Fabre.
Il y a cette tendance qui peut être positive d'ailleurs, parce que les migrants, dans la mesure où ils ont des acquis techniques, peuvent développer. Hein, et on a moins besoin sans doute de main-d'œuvre, d'une main-d'œuvre massive. Mais en ce qui concerne les inégalités, prenez la Mandchourie par exemple. Une grande partie de la Mandchourie a des taux de croissance qui est centré sur l'industrie lourde, avait depuis plusieurs années des taux de croissance qui sont proches de 1%. Donc, on vous dit que la Chine fait 6% de croissance. En fait, ça risque, d'après pas mal d'évaluations, c'est 2 points de surévaluation, elle a 4%. Là, avec la crise du coronavirus, on va passer sans doute, on a au premier semestre, à un très très fort ralentissement. De l'ordre, on est à 2% sans doute de croissance sur le premier semestre. Et donc, ça sera très difficile de rattraper une trajectoire ascendante. Ceci dit, c'était une nécessité que la Chine ralentisse sa croissance parce que après la crise de 2008, elle s'était très fortement endettée. La relance qui était nécessaire a été faite par des injections très fortes de capitaux et notamment par un développement de l'immobilier tout à fait débridé.
Un ralentissement qui était peut-être nécessaire, mais qui, en tout cas, risque d'empêcher le président Xi Jinping, qui avait fait de la lutte contre la pauvreté une priorité de son deuxième mandat, d'honorer ses promesses, Thierry Sanjouan.
C'est possible, mais vous savez, les choses se voient sur le long terme, en fait, finalement. Les plans quinquennaux, ils portent sur 10 ans ou sur 20 ans, plus que sur 5 ans, donc... Et il y a aussi la conjoncture mondiale qui joue, puisque nous sommes quand même dans une économie qui n'est pas complètement globalisée, loin de là, mais qui est quand même solidaire des exportations vers les pays extérieurs à la Chine.
Il faudra continuer à suivre effectivement l'impact de ce ralentissement économique chinois sur l'économie mondiale. On continuera évidemment à en parler dans nos émissions. Mais d'abord, c'est l'heure du journal de l'écho avec Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Après un lundi noir, les bourses mondiales continuent de baisser aujourd'hui. Si l'on avait pu croire les marchés financiers déconnectés du monde, ils ne sont pas insensibles au coronavirus.
Oui, c'est vrai que les épidémies du SRAS ou du H5N1 n'avaient presque pas eu d'impact et certains analystes voyaient encore récemment une bonne résilience des marchés d'actions. Mais après une chute de 6% lundi, la glissade continue aujourd'hui en France et ailleurs. L'épidémie fait baisser les prévisions de croissance mondiale bien sûr, et surtout, comme elle se prolonge, les marchés commencent à naviguer à vue au gré des bulletins épidémiologiques. Par exemple, le 3 février, le nombre de décès dépassait celui du SRAS et Shanghai plongeait de 9%. Et puis ce week-end, l'épidémie qui n'était plus confinée à l'Asie, et voilà toutes les bourses qui perdent environ 4%. Le risque de contre-coup est donc réel, avec 1700 milliards de pertes en une journée lundi. C'est la capacité de financement des entreprises qui est amoindrie, mais surtout, c'est la pente qui est inquiétante plus que le niveau, explique l'économiste et professeur à Paris 1, Gunther Cappel-Blancard.
Oui, à partir de lundi, les bourses, surtout aux États-Unis, mais aussi en Europe, ont dégringolé. Alors, ça représente toujours des centaines de milliards. En soi, c'est habituel, les marchés sont assez volatiles. Mais comme vous le savez, ça peut aller très vite sur les marchés financiers. Je rappelle qu'à la dernière crise, les marchés ont perdu jusqu'à 50% de leur valeur. Et ce qui est surtout inquiétant à mes yeux, c'est qu'on est dans une période où la plupart des experts étaient d'accord pour dire que les marchés étaient un peu surévalués. Donc ce n'est pas tant l'impact du coronavirus qui est à craindre, mais le fait que cet incident, ce virus, soit l'étincelle qui conduise à une baisse prolongée des marchés boursiers. Je crois que l'inquiétude, elle est surtout là. Et ce risque est renforcé par le fait que, au cours des dernières années, les banques centrales, un peu partout, aux États-Unis, en Europe, ont conduit une politique monétaire avec des taux d'intérêt très bas, ce qui favorisait les marchés boursiers. Et aujourd'hui, les autorités monétaires ont relativement peu de marge de manœuvre.
Et on peut voir aussi une certaine désorganisation dans les affaires boursières.
En tout cas, certains signes épars qui interpellent, par exemple au niveau des valeurs, certaines valeurs refuges se renchérissent, comme l'or, mais d'autres, comme la dette américaine à 10 et 30 ans, voient aussi leur rendement baisser du fait de la demande accrue. Et puis surtout au niveau des entreprises, là en pleine période de bilan et prévision financière, les calculs prévisionnels deviennent assez scabreux, au risque de voir l'action faire le yo-yo dans le vide. Ainsi, après plusieurs grandes compagnies américaines, c'est United Airlines qui suspendait hier ses prévisions après avoir vu son action perdre plus de 6%.
On passe au bref, à l'approche de la fin du salon, c'est la quasi-unanimité dans le secteur agricole pour demander une nouvelle loi foncière.
Oui, des ONG, des députés, même la FNSEA, alliés à d'autres petits syndicats qui réclament et proposent une nouvelle loi pour partager, disent-ils, et protéger la terre. Dans le viseur, d'abord le grignotage des terres cultivables par l'artificialisation, c'est 20 000 hectares par an quand même, et puis les gros regroupements de terres par des sociétés opérées via ce qu'on appelle le modèle sociétaire. C'est un enjeu urgent en tout cas, parce que le prix du foncier a doublé en 20 ans. C'est un des principaux freins à la reprise ou à l'installation, presque à l'unisson, donc puisque plutôt qu'une loi en 2020, le gouvernement renvoie ses questions à des groupes de travail. La bataille pour la terre est à suivre.
Le Chili, lui aussi, a mis en place sa taxe GAFA et c'est la plus élevée au monde.
Et oui, 19%, en fait, tout simplement la TVA chilienne appliquée même à Google, Netflix ou Amazon situés hors du pays. Une mesure d'équité avec les entreprises chiliennes, dit le président, au moment d'une réforme fiscale. Ce qui, en fait, effectivement, la taxe la plus élevée au monde prise unilatéralement, alors que les États OCDE doivent s'entendre sur un niveau commun avant la fin de l'année.
Merci beaucoup Xavier Martinet. Votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast.
T'as pas dit bonjour à ta femme que t'es déjà sur ton téléphone. Tu lui réponds c'est pas un drame, on parlera quand je te sonne. C'est l'heure de poster ton cliché, comme d'habitude t'en fais des tonnes. Si les voyeurs ont l'œil rincé pourvu que les envieux s'abonnent. À la page de ta vie rêvée tu la vis pas mais tu fais comme. Si tout allait bien mais en vrai tu sais déjà qu'il y a mal donne. Pour une poignée de pouces levés ton intimité tu la donnes à des anonymes abonnés. Hashtag raconte ta vie.com. Ta vie en scène, elle en devient moins saine. Ta vie en scène, c'est qu'une mise en scène. En scène, ta vie en scène, elle en devient moins saine. Ta vie en scène, elle en devient obscène. Obscène.
Monsieur Pomme de Suzanne, merci beaucoup Thierry Sanjouan et Guilhem Fabre de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et merci aux techniciens de France Bleu à Avignon qui ont permis ce duplex. On mettra les références de vos livres sur la page de l'émission. Une émission préparée aujourd'hui par Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Ovin, Ise Tsikar et Alain de Raucourt. À la réalisation, Philippe Baudouin, à la technique, Alex Dang.
Tu scrutes ce que les autres ont fait, tu tapes son nom et tu l'espionnes. Son nouveau job, son look branché. Le nombre de likes sur ses albums. Est-ce qu'il est heureux pour de vrai ou est-ce qu'un air qu'il se donne?
Demain, on parlera des contradictions de la Chine en matière d'environnement. Et je vous donne également rendez-vous samedi au forum organisé par France Culture à la Sorbonne. À 14h30, on se demandera si la lutte des classes est toujours d'actualité. On sera en compagnie de Dominique Méda, Nicolas Bavray, Philippe Askenazy et Olivier Dard. L'entrée est libre, mais il faut absolument réserver sur le site de la Maison de la Radio. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.